Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit, là.
Bonjour, c'est Esther qui vous parle pour ce nouvel épisode d'Activiste. Aujourd'hui, je suis avec l'une des bédéistes marocaines les plus influentes du moment, Zeynab Fassiki. Bonjour.
Bonjour et merci.
À ses casquettes d'ingénieur et d'artiste, on peut ajouter celle d'activiste, car Zeynab prend la parole pour délier les langues autour de la sexualité, du genre, de la nudité dans son pays. Elle a publié aux éditions Masso son ouvrage Rchouma il y a quelques semaines, et c'est par là qu'on va commencer. Rchouma étant à mes yeux un peu inclassable, est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit ?
Alors premièrement, le livre Rchouma, il était basé sur ma souffrance dans la société marocaine, parce qu'on a la culture de Rchouma, ça veut dire c'est la honte, il ne faut pas faire plusieurs choses en tant que femme marocaine, et ça m'a un peu au début traumatisée, mais après ça m'a inspirée pour faire toute une carrière d'artiste. Et en fait, l'idée, c'est briser les tabous et inviter les Marocains à accepter les autres.
Comment est-ce que tu définirais le livre que tu as écrit ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un mélange entre une BD, un roman graphique, un manuel d'éducation sexuelle. Il y a plein de choses dedans.
Alors, je peux dire que le livre Rchouma, c'est un manuel éducatif, parce que dedans, j'ai expliqué tout ce qui est identité de genre, orientation sexuelle, séparation entre le concept du corps et sexe, parce que à chaque fois, par exemple, je dessine la nudité, on me dit que le public il est excité, donc il faut censurer ça, alors qu'on peut produire de l'art avec la nudité, parce que ça fait mal à personne. Et du coup, voilà, donc c'est un manuel qui explique et qui détaille plusieurs phénomènes.
Et tu parlais de ta souffrance qui a été à l'origine de ce travail-là. Est-ce que tu te souviens des premières fois où tu l'as ressenti, cette souffrance, où tu t'es dit « mais je ne me reconnais pas dans cet environnement ».
Alors, je ne fais pas partie d'une famille très conservatrice, mais en fait, dès l'âge d'adolescence, c'est là où les problèmes ont commencé, c'est là où j'ai vu qu'il y a vraiment une frustration stricte pour vivre une vie sexuelle ou de m'éclater avec mon corps, pour même une liberté de mouvement, parce que chez nous, on a la fille, c'est la réputation de toute une famille ou c'est la réputation de tout un quartier. Et donc, il faut s'inquiéter aux voisins avant de pratiquer ou bien avant de vivre notre vie privée. Et donc, cela m'a vraiment, vraiment touchée. Et donc, quand j'ai grandi, j'ai décidé d'exploiter le talent de dessin. Parce que pour moi, à la fois, ça m'a blessée que je veux le changer. Et aussi, je tiens à la prochaine génération qui va aussi vivre la même souffrance.
Mais tu veux dire que toi, tu t'es sentie empêchée dans ton intimité à cet âge-là ?
C'est ça, parce que j'ai senti que je n'ai pas une vie privée, mais ma vie était partagée avec les autres. Mais aussi, en fait, une fois que j'ai commencé l'université, j'ai commencé par avant de faire l'ingénierie, c'était une formation de technicienne en mécanique. Et donc, j'étais vraiment victime du harcèlement sexiste, que moi, je ne peux pas faire ce domaine, et que malgré que j'avais de très bonnes notes, alors que mon entourage ne m'a pas accepté dans ce domaine.
Et ton entourage, tu veux dire ta famille, ne t'a pas accepté?
Non, en fait, c'était dans les stages, à la classe, les étudiants. C'était vraiment très, très... C'était vraiment un harcèlement sexiste.
En tant que femme, en fait, tu étais très minoritaire. Et...
Oui, parce que... en fait, pas juste ça, mais aussi le harcèlement. Parce que je prenais du transport public. Et je me rappelle très, très bien, il fallait que je prenne le bus public à 6h du matin et à 8h du soir. Donc, j'ai vu par moi-même le harcèlement dans le bus, du frottement, enfin vraiment toute forme du harcèlement. Et tout ça, ça m'a traumatisée à l'âge de 18 ans, 19 ans. Et du coup, le dessin, au début, c'était une thérapie pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. La nudité, c'était juste dans ma chambre. Mais c'est à l'âge de 20 ans que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux.
Et tu n'as jamais eu peur en commençant à publier comme ça? C'était naturel pour toi?
Alors au début, c'était très, très, très difficile. Mais une fois, j'avais 20 ans et que j'ai déménagé parce que j'ai vécu... je suis née à Fès, c'est une ville conservatrice. Et donc, j'ai déménagé à Casablanca. Et donc, c'est là où j'ai décidé de ne plus me soucier de tout ce qui est société ou ce que les... C'est là où j'ai vraiment... je suis arrivée à la liberté ultime, genre c'est bon, je ferai ce que je veux et je m'en fous des autres.
Et qu'est-ce qui t'a fait passer du domaine de l'intime comme ça, à dessiner dans ta chambre, à avoir envie de faire ça publiquement?
En fait, c'est comme ça, c'était la période où les réseaux sociaux ont commencé, c'était vraiment 2013-2014, c'est pas comme maintenant en 2020. Et donc pour moi, c'était juste... une façon de trouver des personnes qui partagent avec moi la même passion et qu'on fasse des débats sur le net et qu'on discute, voilà. Parce que tellement je ne trouvais pas des personnes qui pensent comme moi que je devais chercher sur Internet. Et c'est vrai, j'ai trouvé plusieurs personnes, plusieurs filles comme moi qui utilisent les réseaux sociaux comme enfin un espace, un environnement, comme on dit, « safe ». Sans patriarcat.
Ah ouais, tu le ressens comme ça, les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est quand même aussi violent comme environnement.
En fait, c'est ce que je cherchais. C'est ce que j'ai cherché et c'est la raison. Mais après, j'étais déçue, ça c'est sûr.
D'accord, mais t'as quand même appris plein de choses d'après ce que je comprends.
Ah oui, alors, mais vraiment, je suis déçue là.
Du coup, sur ta démarche, et parce qu'en fait, j'imagine que ça a nécessité une certaine... déconstruction entre le moment où tu t'es rendu compte que tu te reconnaissais pas dans les valeurs qu'il y avait autour de toi et ce que toi tu vivais. Comment tu as réussi à t'éduquer à tous ces sujets-là au final?
En fait, je consommais beaucoup, beaucoup de livres, de BD dès l'âge de 16 ans. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment libérée. Pour moi, la littérature et l'art, c'est les deux seules choses qui m'ont vraiment, vraiment libérée. Et ça te fait sortir de la boîte sombre où tu vis dans un entourage patriarcal. Et c'est là où j'ai appris à défendre moi-même, soit mes droits ou les droits de toutes les femmes. Et c'est ce qui m'a vraiment inspirée à commencer même à dessiner, à écrire des scénarios. Et à produire des livres. C'est ça.
Et quand tu as commencé à faire ça, les réactions autour de toi, elles étaient bienveillantes?
Alors, au début, c'était tranquille parce que c'était juste mon entourage, les amis, les collègues, que ce soit au boulot, à l'université. Mais une fois avec les médias, ça commençait à être un peu difficile pour moi, enfin très difficile au début, parce qu'il y avait des énormes journaux marocains, enfin même internationaux, qui commencent à publier mon profil. Et c'est là où les insultes ont commencé. C'était vraiment en 2017. Et donc, une fois, il y a un article ou une vidéo qui détaille mon travail. Il y a des menaces à mort après, il y a des insultes, il y a des gens qui me signalent parce que c'est des gens qui n'acceptent pas mon discours. Par exemple, il y a une vidéo de moi partagée sur les réseaux sociaux, là où je dénonce tout ça et je parle sur la liberté. Et elle est vue 3 millions de fois par les Marocains. Et c'était vraiment il y a 2 ans. Et donc, j'étais vraiment menacée à mort. Je recevais des emails de ma localisation, où j'habite. Tous mes comptes étaient presque piratés et j'ai pu les récupérer. Mais pour moi, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois, j'apprends que ça dure 3 semaines, 2 semaines de menaces. Et après, ça redevient normal. Après, j'avais trop peur de faire les signatures de Hchouma à Maroc. Même en France, j'ai toujours imaginé que quelqu'un il va ramener un pistolet et tirer dessus. Mmh. Mais je suis toujours vivante. Rien n'est arrivé. Donc, en fait, je pense que tout ça reste virtuel. Parce que les gens qui râlent beaucoup, c'est des gens qui n'osent pas le dire en vraie vie. C'est des gens qui ont le courage juste dans les commentaires, avec des faux profils. Pour l'instant, ça a été toujours virtuel pour moi. Mais des fois, ça c'était vraiment, vraiment trop risqué. Vraiment, vraiment, quand on était enfin, presque de pirater mes comptes, il y avait vraiment des informations très, très privées qui allaient être partagées. Et ça, par exemple, ça me concerne parce que moi, je ne partage pas ma vie privée et je fais mon activisme, mais avec le profil de Zainab Fasiki, mais je ne partage pas ma vie privée. Mm-hmm. Mais là, à 25 ans, parce que tout ça a commencé quand j'avais 19 ans. On peut dire qu'à l'âge de 19 ans, ce n'est pas l'âge pour résister à tout ça. C'est l'âge où on doit se concentrer sur notre vie, on est jeune. Mais moi, j'étais déjà en train de faire la guerre mondiale. Et donc là, à 25 ans, j'ai développé une résistance incroyable. Et que je ne regrette pas que j'ai commencé trop tôt, parce que là, je ne galère pas, là, je m'en fous carrément. Voilà.
Tu donnes plus d'attention en fait aux insultes
non,
ou autres
pas que... Du tout. Parce que je sais que je fais mal à personne et que ces gens qui insultent, je les ai pas fait mal et c'est juste eux qui sont extrémistes.
Ça c'est quelque chose que tu répètes à plusieurs reprises dans Hchouma en disant effectivement que tu as envie de ne rien imposer à personne mais que tu voudrais juste qu'on te laisse toi libre de faire tes propres choix. Et c'est, on dirait vraiment la manière dont tu le répètes à plusieurs reprises que tu prends des pincettes presque pour expliquer ton sujet.
En fait, j'ai fait exprès de répéter plusieurs fois la phrase de « j'impose rien sur les autres, je force rien » parce que à chaque fois je parle de la liberté individuelle, je vois sur les commentaires et les gens qui insultent que je suis en train de forcer mon discours. Ben non. Ben, je suis en train de faire l'inverse. Je suis en train de partager un message de tolérance, de dire que si je suis différente et j'appartiens pas au protocole social dans mon pays, c'est que je veux aussi un peu de respect et que les gens me laissent tranquille à faire ce que je veux. Comme moi, j'impose rien.
Oui, tu parles beaucoup des religions aussi.
Ah oui, alors il ne faut pas nier que la religion d'islam, elle joue un rôle important dans la culture Hchouma au Maroc, ça il ne faut pas le nier. Mais je ne dis pas que c'est la religion, mais je dis les islamistes. Parce que moi, en tant que féministe intersectionnelle, parce que je ne suis pas féministe universelle, je suis féministe intersectionnelle, ça veut dire je respecte toute forme de liberté, ça veut dire chaque femme a sa propre... définition de liberté. Ça, je le crois, parce que j'ai des amies femmes, oui, des femmes qui portent le voile, et je le dis, je sais que ça énerve même les Français, ce discours de voile, mais cette nana, elle m'a rien fait de mal. Elle veut vivre comme ça, elle veut être... il y a une qui m'a dit, écoute, moi, je veux être soumise à mon Dieu, soumise au prophète, je sais pas, c'est sa façon de vivre. Est-ce que ça me fait mal? Non. Donc, je suis féministe intersectionnelle. Je respecte les religions et en même temps, je demande que les autres me respectent. Donc, comme moi, je respecte les femmes voilées. Je veux que les femmes voilées me respectent.
Est-ce que dès que tu as commencé, tu avais conscience que ton intimité était politique ?
Pas du tout. vraiment, ça, comme j'ai dit, c'était une thérapie pour moi. Même quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vraiment mis un plan de faire « oui, ça va, c'est bon, je vais devenir une activiste, je vais devenir, je vais voyager au monde et faire des livres ». Non, c'était juste, je sors de mes cours de l'université d'ingénierie mécanique, c'était tellement stressant, c'était des examens chaque samedi que j'avais envie de dessiner sur ma tablette et publier. Et c'est avec le temps que c'est devenu un activisme, en fait. En fait, je n'étais pas au courant. Jusqu'au même, c'est récent que je me suis rendu compte que c'est un combat, en fait.
Qu'est-ce qui t'en a fait te rendre compte de ça?
Parce que là où j'ai vu les insultes et les menaces à mort, j'ai compris que au début, j'étais juste, c'était rien ce que j'ai vécu dans l'université ou dans le bus. Mais alors après, j'étais face à tout un, enfin, tout un pays qui est anti-liberté individuelle. Et c'est là où j'ai compris que il faut faire vraiment un manuel qui invite les Marocains à accepter les autres. Parce que c'est là où j'étais sûre qu'il faut prendre l'initiative.
Mmh. Il y a autre chose que tu dis dès le début de ce manuel. Tu expliques que tu as choisi de le faire en langue française. Est-ce que tu pourrais réexpliquer ici rapidement pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que je pense que ça dit beaucoup de choses aussi de ce que tu dénonces.
Parce que le projet Choma, c'était le résultat d'une résidence artistique en Espagne. Et en fait, dès le début, c'était écrit quand j'ai postulé que ce sera en Darija, que ce sera Choma, parce que j'ai déjà créé Choma.com, que ce sera aussi des manuels après en Darija, mais j'étais bloquée.
Darija, je ne sais pas si tout
le monde sait. Darija, c'est la langue commune des Marocains. C'est ce, mmh. c'est ce qu'on parle avec chaque jour. Et en fait, par exemple, en Darija, il n'y a pas un mot technique de homosexuel, de vagin, d'orgasme. Vraiment, il y a un manque dans tout ce vocabulaire. Et donc, j'étais bloquée parce qu'il y a une différence. Darija, ce n'est pas arabe. Arabe, c'est à part. Et il y a des mots techniques en arabe. Et il y a aussi un mot en arabe. Mais je veux Darija parce que c'est ce que les Marocains utilisent. Donc au début, j'étais vraiment coincée. J'ai fait l'anglais en Espagne, chose qui n'a rien à voir. Mais c'est après que je cherchais des sponsors qui vont vraiment donner de la valeur au projet que j'ai rencontré la maison d'édition. J'ai dit, OK, on est francophone.
Oui, parce que ta maison d'édition, ce sont les éditions Masso.
Ah oui, ils sont français, mais en même temps, j'ai pensé qu'au Maroc, on est francophone aussi. Mmh. Et c'est une chose qu'on partage partout au Maghreb. Donc j'ai dit, c'est l'occasion pour nous réunir. Je sais que c'est une langue, c'est pas la langue parfaite pour ce changement, mais là, en fait, je fais vraiment une recherche. Ce sera tout un projet à part, c'est de trouver les mots qui existent déjà dans Darija pour décrire, pour remplacer ces vides et qu'ils soient des mots vraiment positifs, mais pas péjoratifs.
Parce que jusqu'à présent...
Non, maintenant, il n'y en a pas. Mais c'est juste que ça, je le répète vraiment dans tous les médias parce que j'étais vraiment... ça m'a vraiment choquée, enfin pas choquée, mais j'étais éblouie parce que, par exemple, à Tanger, ils ont un mot vagin. Darija, c'est roh, et ça veut dire l'âme. Et donc, c'est des mots que moi, je ne connais pas à Fès ou bien à Casa. Et donc, j'ai découvert que dans chaque ville, ils utilisent des mots soft comme ça pour les enfants. Et donc, je fais une recherche et je pense que dans une année, deux ou trois, que le Choma en Darija sortira finalement.
Tu travailles avec des linguistes, du coup, ou tu fais ça toute seule?
Par exemple, ça, je compte le faire avec une organisation au Maroc. Et voilà, l'idée, c'était de ramener des experts linguistiques et de faire vraiment une recherche. Ce n'est pas facile, parce que chaque ville a sa propre langue chez nous. Et donc, mais pour moi, ça mérite ce travail. Ça mérite ce travail pour avoir un manuel. Parce que les parents, une des raisons pourquoi les parents ils n'arrivent pas à expliquer à leurs enfants tout ça, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les mots.
Mmh. Donc toi, ton but, c'est un peu de le mettre dans toutes les mains pour pallier à ce manque.
Alors, pour moi, la seule raison pour briser les tabous à la maison et à l'école, parce que pour moi, comme mon auteur préféré, Kamel Daoud, a dit, c'est que cette frustration et ce manque d'épanouissement sexuel, ça donne des catastrophes sociales. Ça donne vraiment des catastrophes. Et c'est ce qu'on a maintenant au Maroc. On a un taux de viol énorme, un taux de harcèlement énorme, parce que ce débat sexuel, il n'est jamais traité. Même moi, j'ai tout appris dans la rue ou malheureusement par pornographie. Parce que il n'y avait personne dans notre école. Même si c'était fait au collège, c'était une heure et c'était mal fait et on n'a rien compris et c'est bon. La séance est finie, personne qui a compris un truc. Et donc, moi, je ne veux pas que la prochaine génération vit ça.
Est-ce que tu pourrais décrypter un petit peu plus les conséquences de ces tabous pour les personnes qui ne connaîtraient pas la société marocaine
ou qui n'auraient pas encore lu ton livre ? À la fois, quand on n'a pas cette éducation sexuelle, on peut être victime de viol ou du harcèlement. Et à la fois, on peut devenir les méchants. À la fin, on peut cette frustration, c'est comme ça, ça parce que par exemple, on a le sexe hors mariage, il est illégal. Il faut être clair. Le mariage, ça c'est possible à l'âge de 30 ans ou je sais pas. Ça, par exemple, je dis pour les statistiques au Maroc, parce qu'on n'est pas tous capables de, parce que le mariage c'est tout un budget, c'est vraiment du boulot et donc on n'est pas capable de se marier. Alors que pour moi, je pense que l'activité sexuelle, ça peut commencer à l'âge de 18 ans, pour moi. Et donc, je pense que de freiner ce désir, ça mène vraiment à des catastrophes. Et en fait, il y a aussi l'hypocrisie. Moi, vraiment, chaque jour, je rencontre des Marocains, des Marocaines célibataires, mais qui me confirment qu'ils pratiquent le sexe. Et en même temps, c'est illégal. Donc, dans Hchouma, j'ai dit qu'il faut dépénaliser le désir. Parce que chez nous, le désir sexuel, il n'est pas comme manger, dormir, prendre une douche, mais il est toujours mal vu, il est toujours... On a toujours le désir, un concept négatif. Et que... Tellement, et que là, par exemple, j'ai dit un baiser sur la télé, ça fait toute la famille à changer la chaîne, à flipper, et du coup, une scène de violence, tout le monde reste calme et on la regarde sans problème.
C'est ça qui crée de la frustration, ce non-dit qui résulte en des violences et en des inégalités aussi, dont tu parles très bien.
Ah oui, parce que moi, je ne sais pas, je me rappelle plus du titre du livre, mais c'est un livre qui m'a détaillé la psychologie des méchants et comment les méchants deviennent méchants. Parce que on se concentre juste à râler dessus sur les méchants et on ne dit pas pourquoi ils sont devenus méchants. Mais c'est parce qu'eux aussi, ils sont des victimes. Et donc, c'est pour cela que j'essaie. Moi, je préfère un épanouissement sexuel et une liberté, et surtout que ça soit... Si, par exemple, un jour, on fait l'éducation sexuelle au Maroc, j'aimerais bien que ça soit laïque aussi. Parce qu'on n'a que l'éducation sexuelle halal, ça veut dire... c'est une éducation sexuelle qu'on apprend à 18 ans, mais ça, vous l'avez utilisé qu'une fois que vous êtes marié. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc, chez nous, c'est très, très, très difficile de convaincre les politiciens, pour les lois et tout, pour dire que c'est normal de faire le sexe à partir de 18 ans.
Et depuis que tu as commencé à aborder ce sujet-là publiquement, est-ce que tu as senti quand même une évolution autour de toi ?
Alors, oui, parce que, par exemple, dans tous les événements que j'ai faits jusqu'à maintenant, parce que l'idée de Hchouma, c'est quoi ? C'est de commencer le débat, c'est de lancer des discussions et de rassembler les personnes. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait plusieurs événements Hishouma. Et qu'à chaque fois, il y a plusieurs personnes qui assistent. Et je vois comment ces personnes sont tous d'accord avec mon discours. Et parce qu'au début, tellement je vois des insultes que je dis, je pense que je suis seule à dire ça. Alors qu'il y en a, mais ils n'ont juste pas le courage et ils attendent une personne qui a ce courage. Parce que comme j'ai dit, moi j'ai le talent de ne pas penser au jugement des autres, mais pas tout le monde est comme ça. Et donc, pour moi, c'est une révolution sexuelle qui a commencé au Maroc, pas grâce à moi, bien sûr, mais en fait, moi je suis vraiment arrivée après moi. Et qu'avant moi, il y avait plusieurs personnes qui ont commencé le débat dès les années 90. Et moi, je dis que je peux dire que je représente la nouvelle génération, la voix de la nouvelle génération.
Pour continuer ce même combat.
Oui, parce que ça commence à mourir, parce que les anciens qui ont commencé, ils ont presque arrêté.
Il faisait quoi, si tu peux détailler un peu, comment ça se manifestait comme combat à cette époque-là?
En fait, il y a plusieurs associations, il y a des livres, il y a même des séries, des web-séries, il y a même sur la télé, il y a des discussions, des débats sur ça. Mais en fait, moi, j'ai remarqué que tout cela n'a pas fait... n'a pas fait le tour du monde parce que c'était juste dans un entourage très limité. Et c'est pour cela, moi, j'ai choisi les réseaux sociaux parce que c'est l'élément le plus fort maintenant pour transmettre un message.
On n'a pas trop parlé encore du reste de ton parcours parce que tu disais tout à l'heure quand même que tu as fait des études d'ingénieur mécanicienne. Effectivement, ce n'est pas commun. Hishouma, ce n'est pas non plus ton tout premier livre, mais je voudrais revenir sur ce choix d'ingénierie mécanique, c'est comme ça qu'on dit?
Ah oui, écoute, moi je suis ingénieur d'état en mécanique, j'ai bien bossé dans ce domaine et j'ai laissé juste le boulot sur un bureau, mais je le fais toujours en freelance, mais c'est vraiment ma passion. Enfin, dès que j'étais jeune, je faisais du dessin, du robotique. Et donc, ça, c'était une passion. Mais comme je suis une personne non conformiste, anti-système, j'aime pas rester sur un bureau de 9h à 18h juste pour rendre mon boss encore plus millionnaire qu'il est. Et donc voilà, c'est ma façon de voir les choses et c'est pour cela que j'ai choisi de faire ma propre société pour faire mes services et j'ai choisi l'aventure. Au début j'ai dit écoute, si ça marche pas, je vais revenir c'est pour manger et pour payer mon loyer aussi, mais après ça a bien marché. Voilà, je suis artiste. Et je suis chaque semaine dans un pays différent et j'essaye de faire un changement social. J'essaye de, à chaque fois, dans chaque pays, chaque ville, dire que c'est un combat qu'on ne doit pas laisser tomber. Voilà. Et en tout cas, moi, le dessin, je l'ai commencé même durant mes études. Ce n'est pas qu'une fois j'étais diplômée en 2017 que j'ai commencé, non. J'étais vraiment active dans tout ce qui est événements, galeries, dès l'âge de 19 ans. Et en fait, dès que j'ai déménagé à Casa pour mes études, en 2014, je faisais partie du collectif Skefkef. Et c'est un collectif de bande dessinée marocain. C'est la seule BD marocaine qui est aussi... anti-système, qui critique tout ce qui est politique, qui critique tout ce qui est social. Et donc, c'était une école pour moi, à la fois une école d'art et une école de courage. Donc, c'était vraiment 3 ans avant que je finisse mes études. Donc, après mes études, j'étais déjà dans le domaine.
Tu étais avec qui dans ce collectif? Comment ça se passait?
Alors, c'est un collectif de 15 BDistes, mais les autres, c'était vraiment des lauréats des écoles de beaux-arts, c'était vraiment des bédéistes célèbres marocains. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on est souvent 14 mecs et une seule fille. Donc, j'étais toujours moi, une seule fille. Et si, lors d'un numéro de ce magazine, si j'étais absente, il y avait juste une seule fille qui me remplace. Et donc, c'est malheureux que dans l'art, il y a peu de filles qui osent. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai créé mon propre collectif féministe. Je ne sais pas si...
Si, je voulais en venir
voilà,
là.
Donc, je laisse ça pour après.
Bah, non, tu peux le dire, tu peux en parler maintenant.
Bah voilà, j'ai créé le collectif Woman Power parce que j'en avais marre, franchement, parce que durant vraiment ma carrière, j'étais vraiment face à des chantages sexuels je sais pas quoi, pour faire un projet. J'ai rencontré des gens que j'ai cru qu'on va faire une réunion simple, alors que j'avais des demandes incroyables. Bien sûr, j'ai dit non à chaque fois. Mais ça m'a vraiment trop blessée. Et je ne suis pas seule. C'est vraiment Me Too. C'est Me Too, voilà. Et donc, j'ai pensé à créer un environnement safe pour les jeunes marocaines artistes. Et donc, c'était des événements mensuels avec des coachs et qu'à chaque fois, on fixe un domaine artistique. Par exemple, on a fait cinéma, on a fait photographie, on a fait bande dessinée. Et à chaque fois, on crée notre réseau de femmes. Ce n'est pas anti-homme, mais c'est juste anti-chantage sexuel qu'on a tous vécu et qu'on veut juste éviter. Et dans les événements, il y avait même des hommes avec nous qui sont féministes, qui sont vraiment aussi contre ça. Et donc, on a notre groupe Facebook. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que je voyage, j'essaie de rendre ça international. Par exemple, je vais voyager en Tunisie. J'ai proposé de faire ça là-bas. Et
de monter une branche de Woman Power en Tunisie,
c'est comme un atelier. C'est un atelier et j'essaie de trouver n'importe quel espace culturel et de rassembler les personnes locales, surtout des femmes. Et pour, parce que c'est vraiment un réseau qui devient chaque jour énorme. Et à chaque fois, une qui a besoin d'un truc, elle partage ça, elle trouve des solutions. Donc,
c'est la force de la sororité, quelque part.
Voilà, c'est woman power.
Voilà. Où est-ce que tu trouves ton énergie et ta force pour poursuivre ?
J'ai toujours... moi, je suis une personne qui est toujours motivée, toujours, j'ai toujours l'espoir, même s'il y a quoi que ce soit, parce que, comme j'ai dit, à chaque fois... Parce qu'au début, c'était vraiment déprimant. Au début, plusieurs fois, j'ai dit, c'est bon, je vais laisser tomber, je ne vais plus continuer. Ça, ça fait des années.
Qu'est-ce qui provoquait ça généralement? C'était
l'environnement
c'était global,
les périodes, quoi. C'était les périodes de menaces, de piratage, de me dire, on sait où tu es, on va te décapiter. Ça c'était vraiment des trucs horribles que j'ai dû vraiment penser à l'asile, à demander une protection politique. Mais après, j'ai appris que c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, c'est leur mentalité, et que tellement on peut penser à assassiner une femme libre, et que on sera jamais énervé devant les vrais criminels. Par exemple, dans nos rues au Maghreb, on a des agresseurs, on a des crimes, mais ça nous concerne pas. Les Maghrébins, ils sont pas énervés devant ça, mais ils sont énervés que lorsqu'une femme est libre. C'est ce qui nous énerve. Donc moi, j'essaie de... Pour moi, c'est au contraire. C'est les menaces, ça m'a motivée, en fait. Ça m'a donné une raison pour ne plus arrêter. Et je te jure que je connais plusieurs filles qui ont laissé tomber leur carrière à cause d'une seule insulte dès le début. Une fois insultée, c'est bon. Mais moi, je peux compter maintenant les insultes, ça arrivait à 2 millions de fois, mais je m'en fous.
Ben, c'est une sacrée force. Est-ce que tu saurais me dire qui est-ce qui t'a inspiré dans ce combat-là, etc. Est-ce que tu as des personnes comme ça qui t'ont dit « Ah, si elle, elle le fait, peut-être moi aussi, je peux le faire. »
Alors, moi, quand j'étais jeune, j'ai lu Persepolis. Et c'est la BD qui a changé ma façon de voir les choses. Parce que je lisais que des BD qui ne sont pas basées sur une vraie histoire, sur un activisme. Mais Marjane Satrapi, c'est mon idole. Déjà, elle est à Paris. Là, elle bosse sur tout ce qui est cinéma. Mais sa BD, ça m'a trop touchée parce que ça parle sur la révolution en Iran et comment ça a affecté les femmes, leur liberté. Et voilà, donc c'est pire qu'au Maroc, bien sûr. Et ça m'a fait penser aussi à qu'il faut utiliser la littérature et l'art, la BD, pour dénoncer plusieurs problèmes sociaux. Après, alors, à part Marjane Satrapi, il y a par exemple une personne dont j'ai parlé dans Chouma, c'est Dihia Tadmout. C'est la Kahina, comment on dit, c'est sorcière. Et c'est la dernière reine du royaume Amazir. Et donc, c'est après sa mort que les Arabes ont enfin pris le contrôle du nord d'Afrique. Et
est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'était le royaume Amazir?
Alors, royaume Amazir, c'était du Maroc jusqu'au Libye. Et un peu au sud aussi. Donc, c'était tout un royaume Amazir. Ils avaient leur propre religion. Et en fait, les Amazirs, c'est là où la femme était trop, trop, trop respectée. Non, mais personne osait, comme maintenant, forcer une femme à couvrir son corps sous prétexte de ne plus exciter les hommes, ou bien c'était vraiment la leader de toutes les tribus et elle avait la parole.
Et la Kahina, tu veux dire?
À
la femme Amazir. Okay.
Et du coup, Kahina était la reine et c'est elle, elle a fait toutes les guerres, elle a protégé vraiment son royaume jusqu'au bout, elle avait vraiment presque 70 ans. Et c'est en année 703 qu'elle était assassinée durant les conquêtes musulmanes. Parce que les Arabes, ils ont décidé de propager la religion d'islam partout au monde. Et donc, c'est là où tout a commencé. Pour moi, je l'ai bien écrit sur Chouma que depuis la mort de Kahina, c'est le début de la dégradation de la situation de la femme en Afrique. Et plusieurs gens ont été énervés parce que j'ai dit ça. Mais
ah ouais, en quoi c'est polémique?
Parce qu'ils pensent que non, c'est pas les Arabes, c'est pas l'islam, c'est pas. Eh ben moi, je dis ben oui. Il faut être clair. Pourquoi on fait de l'hypocrisie? Et donc, moi, je le dis comme ça, sans filtre.
Tu me dis si je me trompe, mais j'ai eu l'impression en plus que l'identité Amazir, c'était quelque chose que tu revendiquais presque, avec lequel tu t'identifies beaucoup.
Ben oui, parce que je suis aussi moitié Amazir. Et donc, ça me concerne aussi. Parce que ça me rend triste de voir comment mes grands-mères étaient respectées. Et là, je suis leur grande-fille et je suis en train de faire un combat. Ça veut dire on est là, on n'avance pas. On marche arrière, là, parce que je suis sûre qu'au passé, ils ne pensaient jamais qu'au futur, ça sera sombre comme ça. Et donc, c'est malheureux pour moi. C'est malheureux que je suis en train de faire ça en 2020. Et que... Voilà.
Tu veux dire que pour toi, tes grands-mères ne subissaient pas les Amazirs,
il y a longtemps.
Ah oui, dans le mot royaume, grand-mère, tu veux pas dire c'est la mère de ta mère factuellement, non, vraiment, tu veux dire vraiment, tes ancêtres, quoi.
Ouais. Donc, oui. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est malheureux qu'on n'a pas avancé.
Moi, je me demandais si c'est une question que je t'ai posée un peu, mais qu'on n'a pas trop creusée. Tu dis que tu as grandi dans une famille pas trop conservatrice. mais en même temps que tu subissais quand même ces tabous-là, etc. Et je me demandais comment ta famille l'avait pris au départ, quand toi, tu as dit, bah non, moi, je vais arrêter l'ingénierie mécanique et en fait, je vais faire des dessins pour revendiquer ma liberté sexuelle.
Alors, donc oui, ma famille, elle n'est pas conservatrice, mais en même temps, c'est une famille musulmane, là où il faut respecter les traditions. Et du coup, quand je dis qu'elle n'est pas trop conservatrice, ça veut dire le jour où je me décidais d'être qui je suis, ils n'ont pas... j'ai 5 frères, en plus mes parents, donc il n'y a personne qui m'a... J'ai pas subi de violence ou bien... c'est vrai qu'ils m'ont trop engueulé, ça c'est sûr, mais ça a resté... voilà, ça a resté verbal. C'était pas... comment, je sais pas comment dire, verbal ou non-verbal. Je suis des... ça m'a toujours... donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un choc. C'était un choc pour eux ils attendaient que je devienne ingénieur et que j'aie une stabilité, mariée, avec des enfants. Et ben, ils étaient choqués d'avoir une jeune fille qui est arrivée à la fin, mais qui n'a pas respecté les étapes d'une femme réussite pour eux. Parce que je ne veux pas me marier maintenant, je ne veux pas avoir des enfants, je veux voyager partout au monde. Et c'est vrai, la formation d'ingénieur, c'était pour moi comme une expérience pour comprendre les machines et comment les équations mathématiques, ça marche. Et après, je fais ma vie. Mais je voulais juste ajouter un seul truc, c'est qu'une des raisons pourquoi ils me respectent et ils me laissent tranquille, c'est parce que je suis à 100% financièrement indépendante. Parce que le jour où je reviendrai chez eux et je leur dis que j'ai besoin d'argent, c'est là où je serai obligée de tout laisser tomber. Mais là, c'est moi qui leur donne l'argent, c'est moi qui leur montre que voilà, je suis indépendante et j'ai fait mon choix et j'en suis responsable.
Mais ils ont évolué quand même sur leur position de considérer que tu n'es pas, entre guillemets, une femme réussie parce que tu ne souhaites pas te marier, tu ne souhaites pas avoir d'enfants, en tout cas pas dans les médias.
Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est comme s'ils sont fatigués d'essayer et que c'est bon. Ils ont dit, écoute, fais ce que tu veux. Tant que tu n'as pas besoin d'un soutien financier, ben, on est fiers de toi, ça c'est sûr. Mais pour tes idées, c'est entre toi et le Dieu. Voilà. Et ils sont vraiment... Oui, ils étaient vraiment fatigués. Et là, franchement, à chaque fois, je rentre voir ma famille à Fès. Tout va bien. C'est comme si je parle sur rien. C'est comme si une vie normale. On mange tous ensemble. Ils me disent alors comment c'est passé. Et ils ont mon livre au salon, dans leur bibliothèque. Donc, tout va bien maintenant.
Oui, c'est pas tes activités professionnelles sont pas un tabou.
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont pas d'accord avec mes idées, mais ils respectent cette différence et disent bah écoute, c'est tes idées, on va rien te dire.
Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Alors non, mais franchement, moi j'invite les filles dans mon cas à faire un peu de résistance, parce que si moi je me suis pas si je n'ai pas géré ma situation avec ma famille et que je m'imposais et que j'ai imposé mes idées, j'ai imposé ma place, enfin pas mes idées, mais ma place et ma liberté sur ma famille. Parce que sinon, j'allais être vraiment soumise à eux. Et donc, eux, ils ont compris que j'ai une personnalité qui est forte, que je ne laisse pas tomber ma liberté. Et donc, parce que cette soumise, une fois tu commences à montrer que tu es soumise, c'est là où ça va toujours devenir pire.
Est-ce que tu dirais pour toi que c'est quelque chose qui était un défaut que tu as transformé en force quelque part, ou quelque chose qui pouvait être perçu comme un défaut mais dont toi tu as fait ta force?
C'est un défaut pour les autres, je pense, mais pour moi c'est moi.
Ta force de caractère.
Voilà.
Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui voudrait faire la même chose que toi?
Alors, en France ou au Maroc?
Les deux.
Parce que c'est différent, c'est différent. Et en fait, c'est différent parce que c'est aussi, ça dépend de la famille. Parce qu'une fois, il n'y a pas le soutien familial. Ça, que ce soit aux États-Unis, au Japon, au Maroc, il n'y a pas de différence. Mais s'il n'y a pas le soutien familial, c'est vraiment, vraiment, vraiment honteux et ça ne se fait pas. Et une fois, on donne, et je l'ai dit aussi dans le show, moi, j'ai dit que si on donne naissance à une personne, ce n'est pas notre esclave, c'est un esprit libre. Il ne faut pas lui hériter aussi notre façon de voir l'univers. On lui donne toute l'éducation, mais on lui laisse la liberté de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et donc, le conseil que je peux donner à toutes les filles qui... Parce que moi, je peux dire que j'ai réalisé mon rêve. Ça, je peux le dire. Et ce n'était pas facile. C'était après une, vraiment, vraiment une guerre psychique, mentale. Mais j'ai géré. Mais il y a...
Une guerre psychique ?
Oui, parce que moi, au début, tellement j'étais trop, trop, trop attaquée que j'ai dit... Enfin, j'étais trop jeune. J'avais une façon ridicule de voir les choses, mais... Et ça m'a trop blessée que je disais, bah, écoute, c'est moi, c'est ma faute, donc il faut que j'arrête. Bah, écoute, peut-être mon discours, il n'est pas bon, il est faux, alors que non, j'ai appris que non, ils doivent me respecter comme je suis. Non, 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 je ne vais pas me changer pour les satisfaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se change pour me satisfaire à moi? Il y a tout le monde qui vit sa vie, et bah, écoute, moi aussi, je vis ma vie. Et donc, c'est ça le conseil que je peux donner à une fille, c'est que ne te change jamais, jamais pour un autre, parce que l'autre, il ne se changera pas pour toi. Il va t'attaquer, il va t'insulter parce que c'est des extrémistes. Et donc, vis ta vie, ne vois rien que ton rêve.
Bah, c'est... Une belle conclusion. Je vais juste rappeler que Rshuma est aux éditions Masso. On peut le trouver dans toutes les librairies, j'imagine, en
Fnac,
France et au Maroc tout... aussi.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Sur Amazon, vraiment dans tous les pays francophones. Et il sera traduit prochainement.
Voilà. Et donc, à part la traduction, dernière petite question pour conclure. Est-ce que tu prépares d'autres choses?
Ah oui, avec la même maison d'édition, je vais publier ma prochaine bande dessinée l'année prochaine. Mais là, ça ne sera pas un manuel, ça sera la narration, ça sera toute une histoire. Et c'est aussi dans le féminisme et les libertés individuelles.
Eh bien, on a hâte de lire ça alors.
Merci.
Merci beaucoup, Zainab. C'est la fin de cet épisode d'Activiste. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Personnellement, je suis profondément impressionnée par la détermination de Zainab à revendiquer sa liberté coûte que coûte. Vous trouverez dans la description du podcast des liens vers son travail, son collectif et les autres choses qu'elle a citées au cours de notre discussion. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez partager cet épisode, nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, des étoiles également, c'est ce qui nous fera connaître. Vous pouvez aussi vous abonner au flux des autres émissions, Tuto Conquérir le Monde et Les Impertinentes. À très vite et surtout, prenez soin de vous.